Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why,
this is why, this is why I'm hot. Bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode du magazine des industries culturelles et du numérique de France Culture, mais aussi des médias et de la politique culturelle. Soft Power, 15e saison, tous les dimanches soirs de 18h10 à 20h. Ça ne nous rajeunit pas, n'est-ce pas, Julien Chiez?
Bonsoir Frédéric, non, c'est clair.
Ce soir, on parle justement, et avec vous, de jeux vidéo. Cela peut vous paraître un peu technique, là je parle du côté de certains auditeurs, ou trop populaire, hein, pas assez culturel, ou trop mainstream, mais vous allez voir, si vous en doutez, que le jeu vidéo, c'est aussi une culture, une industrie, l'une des premières, sinon la première industrie culturelle au monde, et que c'est aussi un secteur innovant, expérimental, indépendant, par certains de ses studios, et d'une créativité folle. Julien Chiez, youtubeur spécialisé dans les jeux vidéo, et donc avec nous en direct. Bonsoir Julien.
Bonsoir Frédéric.
On vous connaît bien, Julien Chiez, car vous êtes depuis longtemps un chroniqueur, d'ailleurs dans cette émission à certaines époques. Comment est-ce que on devient youtubeur spécialisé dans les jeux vidéo? Vous êtes tombé, dans la console quand vous étiez tout petit, c'est ça?
Tout petit, effectivement, et j'ai commencé à en faire mon métier quand j'avais 16 ans. Vous le disiez tout à l'heure, ça ne nous rajeunit pas, mais moi, ce que j'aime, c'est partager vraiment la culture, l'émotion et le plaisir que l'on ressent avec le jeu vidéo, et j'ai trouvé qu'aujourd'hui, le média YouTube était extrêmement bien adapté pour cela.
Avec nous également ce soir, Ina Gelbert, elle est directrice d'Xbox France, avec elle on parlera de l'univers Microsoft du jeu vidéo, un univers, c'est vraiment le mot, très vaste. Enfin, invité également de cette émission, Guillaume de Fondomière, le directeur général du studio Quantic Dream. En première partie d'émission, on parlera de Joshua Wong, l'activiste hongkongais, héros des droits de l'homme qui a été emprisonné ce mercredi sous la pression de Pékin. La Warner qui sortira ses films en 2021 en salle et en streaming sur HBO. Et puis les Anglais qui ne sont pas contents de The Crown, Netflix qui se prend pour le Hollywood d'Orson Welles avec Mank. Voilà quelques-uns des sujets que nous traiterons également au cours de cette émission. Et puis international ce soir avec vers 19h25 dans le Village Global, je reçois l'écrivain égyptien Alain Al-Aswani, exilé à New York au moment même où le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi est arrivé ce soir à Paris et commence une visite d'État en France ce dimanche jusqu'à mardi. Il sera reçu par Emmanuel Macron demain. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce dimanche, sans oublier Superfail de Guillaume Erner. Ce sera à 19h45 et de la musique aussi avec notre box-office ainsi que le bluesman Robert Johnson. L'émission est réalisée ce soir par Perret Legras avec en régie Baptiste Lénard. Cette émission a été préparée par David Pata avec Nicolas Gastineau. Vous pouvez la suivre sur Twitter au mot-clé Soft Power et bien sûr en vous abonnant au podcast chaque semaine. À réécouter sur franceculture.fr et sur la nouvelle application Radio France. C'est le magazine des industries culturelles et du numérique Soft Power en direct jusqu'à 20h. Vous avez le programme, c'est parti. Cette semaine, mercredi, trois des principaux étudiants activistes hongkongais ont été condamnés à de lourdes peines de prison ferme. Joshua Wong, que nous avions plusieurs fois interviewé dans cette émission, et deux autres étudiants que nous avons également rencontrés à Hong Kong, Ivan Lam et Agnès Chou, ont été condamnés respectivement à 13, 10 et 7 mois de prison ferme. Ils ont été écroués ce mercredi. Joshua Wong a 24 ans. Il s'est fait remarquer pour la première fois à la tête de Scholarism, une association étudiante qui fondé à l'époque l'usage du cantonais dans les écoles et les lycées de Hong Kong. Mais c'est véritablement avec Occupy Central, puis la révolution dite des parapluies à l'automne 2014, qu'il est devenu mondialement célèbre. Le 20 octobre 2014, il est à la une de Time Magazine et devient l'une des personnalités de l'année. Lorsque nous l'avons interviewé durant la révolution des parapluies et par la suite, Joshua Wong ne parlait qu'un anglais un peu approximatif, assez marrant, un peu comme s'il refusait tout autant l'occupation britannique que chinoise. Depuis, il a amélioré son anglais et peut donner des interviews en direct dans la langue anglaise. Il ne fait guère de doute que Joshua Wong est un nationaliste hongkongais à la manière un peu de Nelson Mandela en Afrique du Sud ou Ben Gurion en Israël. Comme eux, il milite essentiellement pour le suffrage universel sans pour autant prononcer les mots en ce qui le concerne d'indépendance, un chiffon rouge pour Pékin. Libéral sur le plan économique, progressiste sur le plan social, cantonné avant tout, il m'a dit se sentir plutôt de gauche. Pour se distraire, il ne lit pas Marx. Il m'a dit préférer jouer aux jeux vidéo et manger. Il adore la nourriture hongkongaise qui fait partie, dit-il, de son identité, Joshua Wong.
The things I love Hong Kong most is, I think two things I love the Hong Kong most is, first, really convenient. I mean transportation. And second, is the food. It's really good for the milk tea and cha chan heng. I really love it because other than politics, watching anime, watching the cartoon, something like that, for being a teen, I really love to eat. Yeah.
Il aime bien manger. Yeah. À l'instant, Joshua Wong, lors d'un de nos entretiens pour France Culture à Hong Kong, durant le mouvement des parapluies, qui disait vénérer Hong Kong pour la qualité de ses transports en commun et donc sa nourriture. Quand il ne fait pas de politique, il a dit jouer aux jeux vidéo et se régaler de plats cantonais. Les modèles de Joshua Wong ne sont pas étrangers, comme on pourrait le croire, ni Martin Luther King, ni Nelson Mandela, justement, ni même Gandhi, mais asiatiques et pour une part chinois. Il vénère Liu Xiaobo, le chinois qui a obtenu le prix Nobel de la paix, alors qu'il était un résident surveillé et qui en est mort, ou l'artiste Ai Weiwei qui est exilé. C'est que Joshua Wong est un activiste à l'ère du numérique, ce qui le distingue d'une longue lignée de militants nationalistes. Il mobilise les foules sur Facebook, mène ses campagnes sur Twitter, multiplie les posts sur Instagram, même si son compte Weibo, le Twitter chinois, a été bloqué. Au total, il a plus d'un million de followers avec ses différents réseaux sociaux. Activiste non violent, le compte Twitter de Joshua Wong reste actif ce dimanche. On y lit « Currently in jail, account managed by friends », actuellement en prison, compte Twitter géré par des amis. Comme un Mandela ou un Gandhi pourtant, comme Gramsci aussi, le voici qui écrit depuis sa prison des lettres publiées sur son compte Twitter. Dans la première lettre, il dit avoir été placé à l'isolement, ce qui est particulièrement rare et cruel pour un détenu politique de 24 ans qui n'a commis aucun crime. Des cages ne peuvent pas enfermer les âmes, ajoute-t-il. Joshua Wong est en train de devenir le héros de la liberté de notre époque, comme Le Point l'a déjà titré en une cette année. C'est un peu notre Mandela. La Chine risque d'avoir, et pour longtemps, du fil à retordre avec lui. Ce qui m'a frappé les trois fois où je l'ai interviewé, et dans les nombreux échanges e-mail ou par SMS qui ont suivi, c'est une forme d'obstination, un entêtement. Ça me rappelle un peu le Ben Gurion, très bien décrit dans la nouvelle et incroyable biographie de Tom Segev, sa résolution, sa volonté à tout prix de défendre l'indépendance de son pays. Dans un livre important intitulé East and West, publié en 1999, l'ancien et dernier gouverneur britannique de Hong Kong, Chris Patten, a raconté la rétrocession de Hong Kong par le Royaume-Uni à la Chine le 30 juin 1997 et a mis en garde le monde occidental. Les Chinois ne respecteront pas, avait prédit l'ancien gouverneur Chris Patten, les Chinois ne respecteront pas leurs paroles, ils mentiront sur Hong Kong et reviendront sur leur promesse d'autoriser, selon la formule officielle, un pays de système. Rarement un livre aura été aussi prémonitoire. En 2020, nous y sommes. Hong Kong, qui faisait partie des quatre dragons ou tigres, on les appelle comme on veut, asiatiques, avec Taïwan, la Corée du Sud et Singapour, était une capitale économique asiatique. La liberté d'expression y était totale, comme la liberté de la presse, la liberté d'association, l'état de droit et la justice ont fêté même chaque année les événements de Tiananmen à Hong Kong. Aujourd'hui, toutes ces libertés ont été annulées. Aujourd'hui, pour des raisons idéologiques, la Chine a fait une croix sur Hong Kong et même sur son économie pour faire imposer son idéologie. Joshua Wong et ses amis en sont l'exemple personnifié cette semaine. Au printemps dernier, Joshua Wong nous avait écrit ici à France Culture pour nous proposer des masques gratuitement car nous n'en avions pas et il voulait aider les médias qu'il avait soutenus. En fait, nous ne l'avions pas soutenu, nous avions simplement parlé de lui, on lui avait donné la parole comme on le fait avec les autorités chinoises, comme on le fait avec l'ambassadeur de Chine par exemple à Paris. Parce que la démocratie et le pluralisme médiatique nous autorisent à l'interviewer, quoi qu'en pense justement l'ambassade de Chine à Paris. Pour nous remercier, malgré tout, il nous a envoyé plusieurs milliers de masques jaune par FedEx que nous avons transmis ici au personnel mobilisé pendant la première vague du Covid. Il y a quelques semaines encore, au moment où son arrestation devenait de plus en plus probable, j'ai adressé un nouvel SMS à Joshua Wong, l'incitant à demander l'asile politique au Royaume-Uni ou à la France. Sa réponse est arrivée tout de suite, malgré l'important décalage horaire. Joshua Wong, il dort jamais la nuit. Il ne voulait pas se rapprocher d'ambassade étrangère car il était, écrivait-il, hongkongais et il entendait rester dans son pays. Surtout que, précisait il, des agents chinois le suivaient constamment. Il ajoutait, je le cite, « Mais quoi qu'il advienne, Je m'efforcerai de me battre jusqu'à la dernière minute et s'il te plaît, continue de soutenir le peuple de Hong Kong dans ce moment difficile. Joshua. France Culture, 18h21, l'actualité des industries culturelles et du numérique. Première séquence, premier segment de Soft Power ce soir avec nos chroniqueurs Emmanuel Paquet de L'Express, Zoé Sfez de France Culture et le youtubeur Julien Chiez avec nous en studio. Et pour commencer, un extrait de la bande-annonce du remake du film Dune.
Il se passe quelque chose en moi. Quelque chose s'éveille dans mon esprit, je n'ai aucun contrôle dessus.
Qu'est-ce que tu as vu ?
Une croisade se prépare.
Tu rêves souvent de choses qui se réalisent, telles que tu les avais vues ?
Oui.
L'épreuve est simple. Si tu retires ta main de la boîte, tu mourras.
Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?
La souffrance.
À l'instant, la bande d'annonce du film Dune, réalisé par Denis Villeneuve, après le film à l'époque de David Lynch. Il s'agit d'une nouvelle adaptation de la saga de Frank Herbert qui remonte à 1965, je crois. Le remake sortira en 2021. Emmanuel Paquet, journaliste à L'Express, bonsoir.
Bonsoir.
Alors jeudi, la Warner a annoncé que tous ses films de 2021 sortiraient en même temps en salle et en streaming sur HBO Max. Ce sera donc le cas pour le remake de Dune, signé Denis Villeneuve, mais aussi pour le nouveau Matrix. Le box-office américain est évalué pour 2020 à 2 milliards seulement, hein, contre plus de 11 milliards en moyenne ces 5 dernières années, chiffre du Financial Times ce week-end. Mais au-delà des soucis financiers d'Hollywood, c'est aussi une stratégie pour la Warner de lutter contre Netflix et Disney+, en tentant de booster, tant qu'il en est encore temps, sa plateforme de streaming HBO Max. Celle-ci compterait 8,6 millions d'abonnés contre presque 200 millions pour Netflix et 74 millions pour Disney, hein, toujours selon les chiffres du Financial Times ce week-end. C'est dans ce contexte général, Emmanuel Paquet, que le studio Warner annonce donc la sortie simultanée en salle et sur son service d'abonnement à streaming HBO Max de tous ses films en 2021. Un pari risqué.
Alors oui, effectivement, c'est un pari risqué parce que sur l'année 2021, c'est quand même 17 films que le studio doit sortir en salle et en même temps sur HBO Max, en tout cas aux États-Unis. Dans le reste du monde, les films continueront de sortir en salle. Et ce sont donc des blockbusters, c'est-à-dire pour une grande partie d'entre eux, dotés d'un budget de plus de 100 millions de dollars. Donc il faut généralement les amortir avec une sortie en salle, des ventes en DVD, une vente aux plateformes, une vente aux chaînes de télévision payantes. Donc jusqu'à maintenant, c'était tout un écosystème qui permettait justement d'amortir le coût de ces blockbusters. Le premier étant Wonder Woman 1984, qui sera diffusé donc le 25 décembre sur HBO Max et dans les salles de cinéma. En France et en Europe, le film sortira uniquement en salle pour l'instant. Effectivement, comme vous le disiez, donc c'est énormément de films de catalogue qui vont arriver en 2021. Et donc c'est cette chronologie des médias qui est en train d'exploser, qui est en train d'être détruite par la Warner. Il faut savoir qu'aujourd'hui aux États-Unis, généralement un film qui sort en salle se retrouve sur une plateforme internet deux mois et demi après sa sortie, jusqu'à maintenant en tout cas, puisque crise du Covid oblige, Universal avait négocié avec les salles de pouvoir sortir Troll 2 17 jours après sa sortie en salle. Déjà, ça avait fait remuer beaucoup, inquiéter énormément les salles aux États-Unis. Là, cette fois, c'est le risque qui est beaucoup plus important pour les salles qui se remettent à peine de la crise du coronavirus et qui vont voir une grande partie peut-être du public à regarder les films directement sur une plateforme plutôt qu'en salle. Alors, il faut voir aussi que c'est extrêmement compliqué pour HBO qui, eux, veulent doper, effectivement, comme vous le disiez précédemment, le nombre d'abonnés qu'ils peuvent avoir sur leur plateforme et rattraper Netflix ou Disney+, qui compte aujourd'hui quand même 73 millions d'abonnés dans le monde. Et l'autre question, c'est combien est-ce que cet essai d'HBO va se concrétiser après 2020, c'est-à-dire en 2021. Alors, comme le disait un responsable de salle de cinéma, il est très difficile de remettre le dentifrice une fois qu'il est sorti dans le tube. Donc, il est fort probable que ce phénomène ne fasse que s'accélérer aux États-Unis, sachant qu'en France, nous, on est en train de passer donc une nouvelle loi qui permettra aux plateformes de diffuser les films en salle, dans le meilleur des cas, moins de 13 mois après la sortie en salle. Donc on va arriver à un monde à deux vitesses, un monde aux États-Unis où les films sortiront très probablement en salle et sur les plateformes en même temps, tandis qu'en France, il faudra attendre 7 mois. Alors ça risque de doper le piratage, et à force d'avoir des chronologies des médias différentes d'un pays à l'autre, tout ça pourrait bien faire dérailler le cinéma français.
Nouveau bouleversement dans la chronologie des médias. Donc, Emmanuel Paquette, une réaction peut-être brièvement, Julien Chiez.
Je pense que c'est un véritable cauchemar pour les exploitants de salles américains, qui en plus étaient montés en gamme, véritablement, avaient rééquipé ces dernières années leur salles. Là, il faut bien se rendre compte que c'est le prix d'un abonnement mensuel. Donc, je crois que pour HBO Max, c'est de l'ordre de $15, sans surcoût. C'est-à-dire moins cher qu'une simple place de cinéma, et ça vous donne accès à tout le catalogue HBO. Donc, c'est un coût de massue phénoménal.
Emmanuel Paquette, ce second sujet ce soir, le réseau social TikTok devait être cédé aux États-Unis d'ici au 4 décembre, selon les injonctions de l'administration Trump, estimant qu'il portait atteinte à la sécurité nationale, rappelons que TikTok est notamment chinois. Pourtant, rien ne s'est passé. Pourquoi ?
Oui, alors effectivement, c'est un peu un mauvais feuilleton, hein, avec plusieurs épisodes et plusieurs rebondissements. À plusieurs reprises, TikTok avait admis vendre ses activités américaines à Oracle, et aux dirigeants de la grande distribution Walmart, céder à peu près 20% de son capital et stocker toutes les informations directement sur les serveurs d'Oracle. Mais à ce jour, donc jusqu'au 4 décembre en tout cas, le contrat n'a pas été signé avec Oracle et Walmart malgré l'injonction de l'administration américaine. Tout simplement parce que entre-temps, le gouvernement chinois est monté au créneau en disant que si un tel accord devait survenir aux États-Unis, le gouvernement chinois devrait donner son accord, étant donné que derrière TikTok, il y a des algorithmes d'intelligence artificielle, et le gouvernement chinois estime qu'il s'agit de technologies sensibles sur la sécurité et la défense nationale, et qu'une transaction de ce type-là ne peut pas se faire sans l'autorisation de Pékin. Donc on voit aujourd'hui qu'on se retrouve un petit peu bloqué hein, dans ce schéma, entre d'un côté une administration Trump qui est en train de terminer son mandat en attendant la prochaine administration, de l'autre Pékin qui met la pression sur le réseau social et sur l'administration américaine. Et donc on voit l'administration Trump remettre cette patate chaude entre les mains de Joe Biden et de la nouvelle administration. Donc ça risque d'être un des gros dossiers de la rentrée de la prochaine administration, de savoir un petit peu quel sera son rapport avec la Chine et quel sera son rapport avec le réseau social TikTok, qui donnera la première température des nouvelles relations entre les États-Unis et la Chine.
Julien Chiez, une réaction sur TikTok.
Ça interroge quand même de savoir que des algorithmes d'un logiciel, en fait, le gouvernement d'un État pourrait avoir des droits dessus ou en tout cas être questionné. Je trouve que ça pose vraiment beaucoup de questions.
Dernière séquence, dernier sujet avec vous ce soir, Emmanuel Paquette. L'application Stop Covid, on en a beaucoup parlé dans cette émission, qui est devenue désormais tous anti-Covid, beaucoup plus téléchargée que la précédente, qui fonctionne beaucoup mieux, notamment parce qu'elle a les autorisations de circulation, on pourrait presque dire, devait coûter peu d'argent, c'est ce qui avait été annoncé. Or, un rapport de mission sur la gestion de l'épidémie montre tout à fait le contraire. Qu'en est-il exactement, Emmanuel ?
Oui, alors effectivement, c'est un rapport d'une commission d'enquête qui a été donc dévoilé cette semaine. Et puis on apprend effectivement que cette application, la première en tout cas itération de cette application Stop Covid, ne devait rien coûter. Et bien en fait, son coût arrive à 6,5 millions d'euros. Alors dans le détail, il y a 2,5 millions d'euros pour les coûts de développement, 2,8 millions d'euros pour la communication faite autour de cette application qui s'est lancée donc le début juin, et qui a survécu jusqu'au mois d'octobre 2020. Donc la commission estime que cette application était visiblement d'une inutilité sanitaire manifeste. Alors depuis, comme vous le disiez précédemment, on a vu tous anti-Covid arriver, avec cette fois 10 millions de téléchargements, donc beaucoup plus que la précédente version. Mais comme le note aussi le rapport parlementaire, c'est beaucoup moins que son homologue allemand, qui s'appelle Corona Warn App, qui lui a été téléchargé 22 millions de fois. Donc, pas vraiment un satisfecit de la part de cette commission concernant la nouvelle application, même si elle souligne qu'elle fait mieux que la précédente. On va voir, après cette deuxième itération, combien le coût total de cette application va coûter donc aux deniers publics. Ça risque d'être bien plus élevé que les 6,5 millions d'euros qu'on a pu voir précédemment.
Voilà, tous anti-Covid qui marche bien mieux et qui a été beaucoup plus téléchargé. En tout cas, on suivra ce feuilleton car il s'agit là encore d'une sorte de série télévisée. Merci, Emmanuel.
You barely find it in yourselves to hug your own.
I hug who I want to. I hug who I love. Particularly when they are affected by the selfishness of others and need cheering up.
Who are you referring to?
Camilla.
Why would I care about her?
Because I care about her! Morning, noon, and night I care about her! And you've hurt her. And if you hurt her, you hurt me.
Les Anglais ne sont pas contents. À l'instant, un extrait de The Crown entre Charles et Diana, la dispute entre Lady Di et le prince Charles à propos donc de Camilla, la maîtresse du prince, dans la saison 4 de la série The Crown. Eh bien, les Anglais ne sont pas contents de cette séquence, alors que le monde entier, lui, adore The Crown, notamment la nouvelle saison 4, justement. Les Anglais regrettent que la fiction dépasse la réalité, ou inversement d'ailleurs, et vice-versa. Le ministre britannique de la Culture, Oliver Dowden, on ne savait pas d'ailleurs qu'il y avait un ministre de la Culture au Royaume-Uni, aimerait imposer à Netflix qu'un avertissement soit mis, soit présenté au début de chaque épisode de la série pour dire qu'il s'agit bel et bien d'une fiction. Alors, on les comprend. À mon sens, la fiction n'est pas comme la réalité. Les époux apparaissent froids et infidèles dans la fiction, mais dans la réalité, ils étaient glaciaux et violents. Lady Di a des troubles du comportement alimentaire dans la série. Dans la réalité, Charles le divorcé n'a-t-il pas été repêché dans la royauté et l'anglicanisme à cause, et hélas, grâce à la mort violente de Lady Di, à Paris en 1997, qui lui a permis de se remarier, disons, de façon plus fluide en 2005. Qui peut croire que la réalité de la monarchie britannique, entre intrigues de génie, complots, manigances et violences, n'a pas sa face sombre? En faisant de Charles le vilain de l'Angleterre néo-élisabéthaine, Netflix ne force pas le trait, il l'édulcore. Bref, les Anglais veulent imposer à Netflix un avertissement, alors qu'il me semblerait plus normal d'imposer à Charles un avertissement parce que la fiction n'a pas réussi à décrire la réalité.
Meg, it's Orson Welles.
Of course it is.
I think it's time we talked.
What is it the writer says? Tell the story you know.
Hello, everyone.
Make yourself to home, Mr. Mankiewicz, or shall I call you Herman?
Please, call me Mank.
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 This is Herman Mankiewicz, but we have to call him Mank.
Mankiewicz. Herman Mankiewicz.
À l'instant, un extrait de Mank, le dernier film de David Fincher qui est sorti sur Netflix ce vendredi, sans passer par la case cinéma en France. Avec nous Zoé Svez. Bonsoir Zoé Svez.
Bonsoir Frédéric, bonsoir.
Alors,
à tous.
Zoé, vous avez vu cette semaine, comme nous, Mank, le nouveau film de Netflix qui se prend un peu pour Hollywood et même pour Orson Welles.
Tout à fait. Alors, c'est assez sidérant de voir à quel point Netflix et David Fincher ont réussi, un petit peu comme il y a quelques années autour du film de Alfonso Cuarón, Roma, à créer une attente assez démentielle autour dans ce film. Un film qui est pourtant extrêmement cinéphilique, alors qui est effectivement brillant, scolaire diront certains.
En noir et blanc.
En tout cas, peut-être en noir et blanc, aride, pour ceux qui ne seraient pas de grands amateurs de cinéma. Pourquoi? Parce que, vous l'avez dit, et on l'a entendu dans cet extrait de la bande-annonce, c'est un film qui dresse le portrait de Mank, alias Herman Mankiewicz, écrivain, dialoguiste de génie, auteur du scénario de ce qui est encore aujourd'hui considéré comme le plus grand film de l'histoire du cinéma, Citizen Kane. Alors, le public cinéphile connaît parfois le nom de Mankiewicz, mais la plupart du temps, c'est pour, en tout cas, évoquer la figure du frère, Joseph Mankiewicz, qui est réalisateur notamment de chefs-d'œuvre oscarisés comme All About Eve, qui lui a valu un Oscar, ou encore La Comtesse aux pieds nus. Donc le nom de Mankiewicz a traversé les âges, mais c'est pourtant donc Mank, le frère aîné, qui a en son temps a le plus marqué Hollywood. Et ce film, d'une certaine manière, c'est un hommage, une critique, un portrait de l'âge d'or des studios, en particulier de celui de la MGM, époque où le cinéma était une industrie violente, chaotique, mais source d'une manne exponentielle, et où on écrivait à plusieurs, où Mankiewicz, par exemple, régnait en maître. On considère aujourd'hui qu'il a influencé de près ou de loin les scénarios, la structure de plus de 200 films à l'époque, alors qu'il a été très très peu crédité. Donc le film de Fincher, il est assez passionnant, parce qu'il a des tonnes de niveaux de lecture. Le réalisateur de Fight Club, de The Social Network, dont c'est le 11e film, l'a dit, c'est probablement les cinéphiles qui joueront le plus de ce film. Parce que, pourquoi? À ce stade, au moment où on découvre le personnage de Mankiewicz, incarné assez brillamment, il faut le dire, par Gary Oldman, casting 3 étoiles pour ce film, acteur qui, d'ailleurs, a bien plus que l'âge du rôle, eh bien, Mankiewicz, il est détruit par l'alcool, et il est détruit par ce qu'a produit aussi en lui, et dans l'écosystème Hollywood. bien la grande distraction. Donc en fait, ce film, c'est un film de cinéma, véritablement, vous l'avez dit, en noir et blanc, sur le cinéma, sur ce que peut le cinéma et sur ce que ne peut plus le cinéma. C'est une réponse, un complément, dit David Fincher, au film Citizen Kane, dont il reprend l'esthétique, donc la photo en noir et blanc, la structure en flashback. C'est une réflexion sur la contrainte, sur les œuvres ratées, sur la reconnaissance, puisque dans ce film, on voit Mankiewicz lutter pour faire reconnaître son rôle dans l'écriture de ce film. Et on sait, on apprend que c'est le père de David Fincher, qui est mort il y a plus de 13 ans, qui est l'auteur du scénario du film que nous, on est en train de regarder, un scénario qu'il avait écrit et un peu enterré sans croire vraiment à son propre talent. C'est un film aussi sur ce que le cinéma et l'industrie du divertissement peut et ne doit pas faire. Il est question dans Mank beaucoup du pouvoir démesuré, du storytelling, de ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news, des volontés de certains démiurges, de certains magnats qui clairement sont des références à peine voilées ou en tout cas trouvent de beaux échos aux élections américaines qu'on vient de vivre. Et c'est une réflexion sur ce que le cinéma fut et ce qui ne peut plus être en tout cas. C'est ce que nous dit Fincher, qui a commencé sa carrière avec Alien 3, un film complètement raté où les producteurs avaient totalement repris le contrôle du film, qui a été un grand traumatisme pour lui. Et il nous parle du coup de la naissance d'un des rares films où toute liberté avait été accordée à l'époque à l'auteur, Mankiewicz, et au jeune réalisateur Orson Welles, 24 ans au sommet de sa carrière. Cette liberté, ce pouvoir de tout faire pour le cinéaste, il semble aujourd'hui, et c'est ce que nous dit Fincher avec ce film et aussi en interview, eh bien que seul Netflix puisse être à même de le garantir à un réalisateur comme Fincher sur un projet comme celui-ci. Fincher le dit tout le temps, oui, ce film est potentiellement aride, complexe, son écriture est traversée par un monde que peu de gens aujourd'hui ont connu, et les studios m'auraient imposé, dit Fincher en interview, un calendrier, des changements, un film plus court. J'aurais lutté, en somme, comme Mank lutte pendant tout le film pour maintenir un grand niveau de complexité dans son scénario. Netflix serait en fait aujourd'hui devenu le lieu absolu de la cinéphilie, nous dit Fincher, qui, il faut le rappeler, s'est engagé sur un contrat d'exclusivité pour 4 ans avec Netflix. Il est l'auteur d'une série, en tout cas le créateur d'une série qui marche très bien, Mindhunters, qui vient de signer pour une 3e saison. Ce qui est intéressant, c'est que la réception critique a été dithyrambique pour ce film. Il y a une forme même de gratitude de la part des critiques à l'égard de la plateforme. Et les annonces de la Warner, dont parlait Emmanuel Paquette il y a quelques minutes, qui ont eu lieu à peu près le jour de la sortie de ce film, créent vraiment une sensation de malaise peut-être pour le cinéphile. Pourquoi ? Parce qu'en visionnant Mank, le cinéphile, il est assez perdu. Il ne peut que se réjouir du fait qu'un tel film existe. Il ne peut que se réjouir du fait qu'il jouisse d'une telle publicité, du fait qu'on puisse le voir et le revoir en temps de pandémie. Il regrette, c'est sûr, les conditions de la salle, mais en tout cas, il se dit que décidément, il va falloir investir dans un rétroprojecteur.
Autre sujet ce soir, Zoé Sfez, et d'ailleurs en lien avec ce que vous venez d'évoquer, à savoir le film Mank, et toujours entre cinéma et streaming donc, 250 artistes français qui se mobilisent contre, je cite, la banalisation et la streamisation de la culture, c'est-à-dire tout simplement la culture via les plateformes de streaming, que ce soit justement Netflix ou encore Salto, ou même dans la musique, Spotify.
Effectivement, alors c'est une tribune, la première partie, on va dire que ce mouvement est né le 26 novembre dernier à l'initiative de deux acteurs du spectacle vivant, Caroline Proust et Alain Fromanger. C'est une tribune qui a été signée par 250 artistes qui s'inquiétaient, vous l'avez dit, de la banalisation des versions numériques du spectacle vivant. Alors, signé par toute une foule de comédiens, Jean-Pierre Darroussin, Michel Berryer, Ariane Ascaride ou évidemment des chorégraphes comme Mathilde Monnier. Le texte nous disait « La peur de perdre le lien si difficile à créer avec le spectateur nous oblige tous à nous réinventer ces temps-ci. C'est naturellement que nous nous tournons vers d'autres moyens pour faire entendre le théâtre et le spectacle vivant. Mais ce sont des solutions de secours dangereuses, dont la banalisation pourrait conduire à la disparition progressive des salles de spectacle. Maintenant qu'une pathologie du lien s'est installée dans notre quotidien, la réponse faite avec l'utilisation de l'outil numérique nous accable et nous inquiète. » C'était donc une tribune qui avait été signée et rendue publique juste avant que le gouvernement ne confirme la possible reprise des spectacles à partir du 15 décembre prochain. Mais si entre-temps Roselyne Bachelot a expliqué qu'elle avait entendu ce cri du cœur, il semblerait qu'effectivement, il faille qu'on se pose la question de savoir si les acquis de cette période de pandémie vont durablement ou pas marquer le secteur du spectacle vivant en particulier. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, on l'a entendu ici beaucoup dans Soft Power, avec la Comédie Française, avec l'Opéra de Paris. Aujourd'hui, il y a une vraie révolution. Certains tabous sont tombés dans des grandes maisons, dans des grandes institutions. pour essayer de rendre le plus accessible possible tous les spectacles. Deux questions subsistent dans les 15 jours qui vont venir. Est-ce que cette offre numérique va, disons, survivre à la réouverture des salles? Et deuxièmement, est-ce que tout le monde aura les moyens de rouvrir? Car c'est un petit peu ce qui est en train de se préciser dans les jours qui viennent, alors que des grandes salles comme le Théâtre de la Ville, le Théâtre du Châtelet, évidemment le Théâtre, l'Opéra de Paris, annoncent des reprises très claires dans le mois de décembre. Ils sont de plus en plus nombreux aujourd'hui, les théâtres, l'Apollo et certains lieux de culture, à expliquer qu'au regard des règles sanitaires et des exigences, eux ne pourront pas ouvrir. Va-t-on vers, par ailleurs, un spectacle, une reprise du spectacle vivant à deux vitesses? On est en droit de se poser la question.
Merci Zoé pour votre présence toujours encore hors des studios. J'espère que vous allez bientôt nous revenir, revenir physiquement à la maison de la radio. À suivre dans Soft Power, spécial jeux vidéo dans un instant, suivi par le Village Global. Je reçois ce soir l'écrivain égyptien Alaa Al-Aswani, alors que le président Abdel Fattah Al-Sissi est en visite ce dimanche et demain et mardi à Paris. 19h45, Superfait de Guillaume Erner. Voici pour la suite de notre programme. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine, voici le box-office, notre séquence hebdomadaire réalisée avec l'Institut d'études GFK pour les ventes de livres ou de jeux vidéo, et CBO Box Office pour le cinéma, sans oublier le Billboard de la semaine et le Top 50 France de Spotify. Alors, livre pour commencer. On était curieux de la performance du nouveau prix Goncourt, L'Anomalie d'Hervé Le Tellier. Il n'est pour l'instant qu'à la 5e place, mais le prix attribué ce lundi est encore trop récent pour entrer pleinement, je dirais en semaine pleine, dans les meilleures ventes. On suivra donc de près son évolution dans les prochaines semaines pour voir s'il y a vraiment et durablement un effet Goncourt. L'impact du prix littéraire sur les ventes du livre récompensé, et ce, en dépit des critiques sévères ces derniers temps dont on fait l'objet ses prix. En non-fiction, Barack Obama continue, lui, de tout écraser sur son passage. 35 000 ventes encore cette semaine. Aucun auteur français, un Goncourt ou pas Goncourt, ne peut rivaliser. À noter cependant, loin derrière, à la 5e place, un ancien méga best-seller qui fait un retour discret. Les 4 accords Toltec. Les 4 accords Toltec, c'est le livre culte du développement personnel des années 2000, publié en 1997 aux États-Unis par un chaman mexicain, Miguel Ruiz. Il a été intronisé par Oprah Winfrey, qui en a parlé dans son talk show et aussi dans son magazine, O Magazine. Et on parlait tout à l'heure de l'effet Goncourt, c'est rien à côté de l'Oprah Effect, l'effet Oprah. Petit bras, nous sommes à côté. Dès 2001, les 4 accords ont pris la première place du classement des best-sellers du New York Times, mais surtout, contrairement au prix littéraire, l'effet Oprah peut frapper plusieurs fois. Le 3 mars 2013, Oprah est d'humeur chamanique et elle réinvite Miguel Ruiz dans son Super Soul Sunday. D'après les chiffres de la maison d'édition Amber Allen, qui publie les 4 accords aux États-Unis, le vieux livre de 97 s'est retrouvé 16 ans après premier des ventes Amazon en quelques heures, vente en hausse de 695%. Du coup, si vous êtes un auteur avide de succès, un conseil, mes amis, ne visez pas le Goncourt, envoyez plutôt votre manuscrit à Oprah Winfrey. Au cinéma, alors les salles françaises et américaines sont toujours fermées et même Oprah Winfrey ne peut rien y changer. Alors qui domine le box-office international cette semaine? La Chine, de loin, suivie du Japon avec le film d'animation Demon Slayer dont on a déjà parlé, et assez vite derrière le Vietnam, la Corée du Sud, bref, les pays asiatiques qui ont mieux géré le Covid que nous se font plaisir au cinéma en récompense de leur rigueur. Et nous, les mauvais élèves, eh bien, on est punis. Et bang! En vente jeux vidéo maintenant cette semaine, les chiffres ne sont pas encore impactés par les départs en trombe de la Xbox Series X et de la PS5. Le premier jeu PS5 du classement, le dernier Call of Duty, n'est qu'à la 23e place. Pour l'instant, c'est toujours pour la Switch qu'on achète le plus de jeux, et d'assez loin. Après l'effet Oprah, l'effet Nintendo. Animal Crossing, Zelda, Mario, les petits héros japonais de Nintendo, ce sont eux, une fois de plus, les bons élèves. Une petite réaction, Julien Chaise, sur ces chiffres.
Et je pense qu'il risque de continuer, puisque les consoles qu'on appelle de nouvelle génération, donc les nouvelles Xbox et PlayStation, sont en pénurie. Donc clairement, ce Noël appartiendra à Nintendo, ça ne fait pas l'ombre d'un doute.
Et on finit en musique avec le deuxième titre le plus écouté de France, sur Spotify, Fiver d'Angel, avec la britannique Dua Lipa. Dua Lipa, c'est une star mondiale, avec un petit côté d'ailleurs reggaeton dans une partie de ce titre. Et avec ça, Angel est non seulement en train de devenir une icône dans le monde francophone, ça on le savait, mais dans le monde tout court, Miley Cyrus, New York Times, elle est influencée partout. À quand une invitation chez Oprah? Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I could feel it inside. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. Avec du temps, ça partira. Et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, moi je suis rien sans toi. Et je sais que je perds de temps dans tes bras. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais un hit mondial chanté en français, ça fait du bien, c'est tellement rare. Soft Power, l'influence, la culture, les médias, le numérique, dans un instant. La suite, la deuxième partie de cette émission, ce soir consacrée aux jeux vidéo. Un peu avant 19h30, l'écrivain égyptien Alaa Aswani, au moment où débute la visite officielle en France du président Al-Sisi. 19h45, Super Fail de Guillaume Erner, et tout de suite donc, jeux vidéo. Vous pouvez vous abonner au podcast du magazine Soft Power, consacré chaque semaine à l'influence de la France et l'actualité des industries créatives et du numérique, des médias et de la politique culturelle. Et ce podcast est disponible gratuitement sur la nouvelle application Radio France. 18h47, bonsoir Julien Chaise.
Oh, bonsoir.
Le sujet principal de cette émission ce soir, ce sont donc les jeux vidéo. Vous êtes avec nous en direct, youtubeur spécialisé dans les jeux vidéo. Et au cours de cette émission, on retrouvera également Ina Gelbert, la directrice d'Xbox France, et Guillaume de Fondomière, le directeur général de Quantic Dream. Je le disais, Julien, en début d'émission, le jeu vidéo pour le non-gamer, hein, ça peut paraître un peu technique, ou trop populaire, ou pas assez culturel, ou trop mainstream. Mais je suis certain que vous allez nous dire, hein, pour ceux qui en doutent, que le jeu vidéo, c'est aussi une culture, une industrie, la première industrie culturelle au monde, et que c'est surtout un secteur innovant, expérimental, indépendant pour certains de ces studios. Comment est-ce que vous voyez, pour commencer, le poids de cette industrie, Julien Chaise?
Bah tout d'abord, si on parle très pragmatiquement en termes de chiffres, on est sur une industrie qui aujourd'hui pèse quasiment 200 milliards de dollars annuellement. Donc c'est effectivement absolument colossal. Et surtout, c'est une progression qui est stratosphérique.
Et c'est-à-dire plus que l'industrie de la musique et du cinéma réunis.
Bah vous en avez parlé tout à l'heure dans l'émission, hein, Hollywood, qui est extrêmement impacté par les différents confinements et en tout cas cette pandémie. Ce n'est absolument pas le cas du jeu vidéo qui, lui,
bien au contraire.
Au contraire, c'est véritablement répandu. Et je pense d'ailleurs que fondamentalement, les différents confinements ont permis aussi à beaucoup de familles peut-être de se rapprocher du jeu vidéo, de voir qu'ils pouvaient jouer avec leurs enfants, qui peut-être leur proposent des titres un petit peu plus globaux, inclusifs, etc. Et je pense que le jeu vidéo a énormément bénéficié. Il y a eu des problématiques hein, qui vont perdurer encore pendant plusieurs mois, puisqu'il y a des développements qui sont impactés. C'est-à-dire que, évidemment, il y a des blockbusters au cinéma, mais il y a aussi des blockbusters dans le jeu vidéo, des équipes parfois de milliers de personnes. Et en période de travail à domicile, il faut que l'industrie du jeu vidéo se réorganise. Mais globalement, ça fait partie des gagnants de cette crise.
Alors je le disais, pour le non-gamer, c'est parfois, on a du mal, ils ont du mal à apprécier l'aspect culturel, l'aspect même créatif ou expérimental des jeux vidéo. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Je leur répondrai qu'il suffit en fait de s'ouvrir un peu, et de faire la petite démarche d'aller essayer de voir combien le jeu vidéo aujourd'hui est une bibliothèque diverse. À l'image de la littérature ou du cinéma, en fait, je crois qu'aujourd'hui, on peut trouver ce qu'on veut. C'est-à-dire des jeux en solo, des jeux en multijoueur avec d'autres personnes qu'on va affronter sur le même canapé ou en ligne. On va pouvoir avoir de la compétition, il y a énormément de sports, hein, du football, etc. Mais il y a aussi des aventures épiques, il y a des histoires de plus en plus poignantes, des histoires parfois très politiques aussi. Enfin, on a vraiment...
De l'art plastique d'une certaine manière.
De tout, de la création, de la création.
Et même de la musique, on y reviendra, mais les fameux jeux, les concerts in-game, c'est-à-dire qu'on fait aujourd'hui des concerts en particulier en période de confinement, les artistes viennent dans les plateformes et jouent.
Totalement. Et il y a toute la scène aussi du jeu vidéo indépendant, où là, on n'est pas du tout sur le blockbuster, hein, on est sur des titres beaucoup plus ramassés, des équipes parfois qui peuvent n'être que représentées que par une seule personne, et qui vont aller chercher justement des thématiques peut-être plus précises, vont faire bouger un petit peu les lignes. Et on le voit de plus en plus, c'est à mon sens le média qui s'est le plus renouvelé sur ces dernières décennies.
La place de la France dans ce secteur, quels sont les studios, quelle est notre part dans cette industrie ?
Alors il y a énormément de talents français. Mais beaucoup de ces talents français se sont exportés et vont travailler maintenant pour des studios internationaux.
Activision ou Blizzard ou d'autres, oui.
Voilà. Mais en France, néanmoins, on a de beaux studios. Ubisoft, par exemple, est l'un des fleurons les plus connus, même si la plupart de ses productions sont faites finalement à l'international.
Des petits bretons installés à Montpellier, mais qui sont aussi au Québec
Canada,
et à Shanghai. Ouais.
Exactement. À Singapour, un peu partout, à Casablanca aussi. Donc, les Français ont une véritable appétence et pour jouer et pour créer des jeux vidéo. Et je pense qu'aujourd'hui, et je trouve que c'est tant mieux, on s'est un petit peu séparé de cette histoire de French Touch qui était très spécifique. Maintenant, elle est beaucoup plus globalisée, mais elle a aussi vraiment des titres qui ont énormément touché. Dernièrement, il y a un jeu, la plupart des gens ne savent pas qu'il est français, ça s'appelle Flight Simulator, c'est un simulateur mythique de voltige, incroyablement réaliste, une véritable prouesse, et on le doit à un studio 100% français, Asobo, à Bordeaux.
Les studios français, les jeux français, vous diriez que c'est un peu plus créatif, un peu plus visuel, plastique au niveau des histoires. Quel est le French Touch que vous dites que ça a disparu, mais ce serait quoi les éléments qui définiraient un petit peu notre jeu vidéo hexagonal?
Ce qui me réjouit justement, c'est que je trouve qu'on peut moins le cantonner. Un Quantic Dream, par exemple, va être dans l'excellence de la narration interactive. Un Asobo va faire des choses très variées. Ils peuvent faire des jeux d'aventure. Ils ont fait un jeu qui se passe au Moyen-Âge, qui est une époque qui est assez rarement dépeinte finalement dans le jeu vidéo. Et puis, ils ont fait un jeu de voltige. C'est quand même le grand écart. Mais dans les deux cas, vraiment, c'est l'excellence technique et narrative vraiment qui l'emporte. Et puis, il y a plein de studios et plein de petits studios aussi, par exemple sur les jeux mobiles, qui se développent aussi énormément.
Alors cet hiver, il y a une guerre qui n'est pas simplement une guerre de jeux vidéo, c'est une guerre industrielle entre les grands leaders du marché avec de nouvelles consoles. Est-ce qu'on peut situer l'état de la bataille ?
Alors moi, je préfère parler de match, parce que il n'y a pas de mort dans cette histoire, mais c'est
les
comme...
Les morts, ils sont juste dans les jeux vidéo.
Ah, exactement.
Il y en a beaucoup.
Mais il y a une véritable, vous avez raison, hein, confrontation. Elle est économique, elle est sociale aussi, hein, puisque...
Elle est géopolitique, puisque c'est quand même le Japon versus les États-Unis, avec les Français dedans, même si les États-Unis sont très au cœur de la bataille.
Oui, parce qu'effectivement, vous avez raison, donc Xbox, c'est américain, c'est Microsoft. PlayStation, c'est Sony, c'est japonais. Mais dans les faits, aujourd'hui,
le jeu vidéo de Sony est très américain.
Piloté par les États-Unis.
Comme pour le cinéma, par exemple. Les films de Sony sont faits, en fait, par Hollywood et le green light est à peine donné à Tokyo.
Vous avez totalement raison. Ça peut créer d'ailleurs quelques petits psychodrames en interne. Il y a eu beaucoup de mouvements ces dernières années. Mais si on regarde et on dézoome un petit peu sur la précédente génération, celle qui existe encore, la Xbox One et la PS4, on a une domination claire, internationale, de la part de PlayStation. Xbox a un peu raté la génération Xbox One, et donc arrive avec des arguments quand même très solides hein, pour cette nouvelle génération, donc avec les Xbox Series. D'ailleurs, si je dis « les », c'est parce qu'en fait, il y en a deux. Il y a une machine qui est annoncée comme la plus puissante de tous les temps, la Xbox Series X, et sur le papier, c'est vrai. Et une autre, moins chère, la Xbox Series S, qui elle est totalement digitale, on peut pas mettre de disque, etc. C'est qu'en téléchargement, un petit peu moins puissante, mais qui, et c'est intéressant en cette période de crise, a aussi vocation à ouvrir le marché à des gens qui peut-être ne peuvent pas dépenser d'un coup 500 €, puisque c'est le prix des Xbox Series X et PS5.
Les rapports de force entre Xbox et PlayStation en termes de vente en France, en Europe ?
En France, le marché appartient plus à PlayStation. Très clairement.
Sur quel niveau ?
Il faut compter entre 3 et 4 PS4 vendus pour une Xbox One. Et des chiffres que j'ai pu avoir sur ce lancement, les deux concurrents sont en pénurie. Mais il y a déjà un net avantage hein, pour la PS5.
Forcément. Donc le marché européen, c'est Sony et français, c'est Sony ?
Oui.
Alors dans les avantages, et on va y venir dans un instant avec la directrice d'Xbox justement, dans ce secteur qui se renouvelle, il y a une nouveauté importante, enfin qui est déjà en place, mais qui se renforce, qui s'appelle le Game Pass. De quoi s'agit-il ?
C'est quelque chose à mon avis,
d'incroyable.
En tout cas, qui
je vous ai volé le mot. De la...
Bouleverser l'industrie du jeu vidéo, je pense, dans ces prochaines décennies. Et ça, on le doit à Xbox, donc à Microsoft.
Parce qu'ils sont à la traîne, ils expérimentent.
Mais vous avez raison, Frédéric. Ils ont pivoté, en fait. Ils n'arrivaient pas à être leader dans la vente de hardware, donc des machines. Et ils se sont dit, on va se mettre dans le service. Et là-dessus, ils font une sorte de Netflix du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'avec un abonnement mensuel d'une dizaine d'euros, vous avez accès à un catalogue illimité, enfin, en consommation illimitée d'une centaine de jeux, dont toutes les exclusivités Xbox dès leur jour de lancement, au lieu de l'acheter, vous l'avez directement à l'intérieur, sans surcoût. Ça, c'est un mouvement assez profond. Pour l'instant, Sony, qui lui n'a pas de difficulté à vendre ses consoles et mise énormément sur ses grosses exclusivités qui coûtent cher, qui sont des blockbusters, n'a aucun intérêt à aller copier ce business, mais le président de PlayStation a souligné qu'il le regardait quand même de près. Et dans les années à venir, il notait véritablement une bascule du mode de consommation des joueurs, nul doute qu'il contre-attaquerait.
Qui suivra, oui. Avec nous par téléphone, Ina Gelbert. Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice d'Xbox France, la grande patronne d'Xbox France. On appelle ça, est-ce que vous acceptez qu'on dise que vous êtes une consolière? Le mot est un peu...
Écoutez, dans le présent, je suis une consolière, effectivement, mais il va falloir se projeter un peu dans l'avenir.
Alors, commençons par la partie console, console versus online. D'ailleurs, on a parlé à l'instant du Game Pass. Vous voulez peut-être réagir sur ce Netflix du jeu vidéo dont on parlait?
Oui, absolument. Le Game Pass est un service qu'on a lancé en 2017 qui vous permet d'avoir un abonnement dans lequel vous allez retrouver énormément de jeux. On est à plus de 100 jeux sur le Game Pass pour PC, on veut bien au-delà sur le Game Pass pour console. Et c'est un abonnement qui était vraiment nécessaire, je trouve, dans notre industrie, qui permet aux joueurs d'avoir accès à tous ces jeux sur différents supports, d'ailleurs, pour un prix mensuel bas.
Alors ce prix est bas, et il permet d'avoir à la fois des blockbusters, mais aussi des indépendants. Ça, c'est au fond là, une philosophie un peu nouvelle pour Microsoft.
D'associer les indépendants, c'est pas tout à fait nouveau. On a déjà plusieurs programmes, notamment ID at Xbox, qui permet de mettre en avant des plus petits studios. L'intérêt du Game Pass, effectivement, c'est qu'il va permettre de pousser des jeux AAA qui font partie des studios Microsoft, mais aussi de studios tiers partenaires, et en même temps d'avoir un large catalogue de studios plus petits, indépendants, à qui on va donner une visibilité qu'ils n'auraient pas eue sans l'arrivée du Game Pass.
Les jeux AAA dont vous parlez un instant, AAA, c'est les blockbusters, justement. Alors, avant de poursuivre ce dialogue, Ina Gelbert, je rappelle que vous êtes la directrice d'Xbox France. Un mot peut-être sur la philosophie d'Xbox en général et du consolier, donc de cet écosystème Xbox.
Je vous remercie d'appuyer sur le terme écosystème parce qu'on est vraiment, je pense, à un tournant de l'industrie aujourd'hui. On a d'un côté les consoles qui sont très importantes pour nous et très importantes pour les joueurs. On le voit encore avec cette nouvelle génération puisqu'on arrive avec deux consoles. Mais on commence aussi à se rendre compte qu'il faut, au lieu de mettre la console au centre de la stratégie, mettre plutôt le joueur au centre de la stratégie puisqu'on le voit qu'il a des attentes qui sont un petit peu différentes aujourd'hui à ce qu'étaient ses attentes auparavant. Donc, un joueur, aujourd'hui, si vous voulez, il veut pouvoir accéder à son écosystème, bien sûr, sur ses consoles, mais aussi sur son smartphone, donc quand il est en déplacement, ou sur un PC, et donc, quelque part, d'avoir une seule clé d'entrée, qui est son compte Xbox, et avec ce compte-là, pouvoir accéder à l'écosystème sur sa console, sur son smartphone, ou sur une tablette, ou encore sur un PC. C'est ça qui change aujourd'hui dans la consommation du jeu vidéo.
Une question sur le Covid et les effets d'audience que vous avez mesurés sans doute du fait de non seulement d'un mais de deux confinements.
Alors ça a été assez marquant sur le premier confinement évidemment, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de gens sur notre plateforme, plus de temps passé aussi à jouer aux jeux vidéo et on s'est rendu compte également que le jeu vidéo à ce moment-là a permis de rassembler les gens, de garder le lien entre les personnes, entre les enfants avec leurs amis mais aussi entre des membres de famille qui ne pouvaient plus se voir mais qui pouvaient se retrouver dans une partie de jeux vidéo. Le deuxième confinement s'est un peu moins marqué, il faut pas oublier aussi qu'on est sur une période de lancement de nouvelles consoles. L'impact de ce deuxième confinement, par contre, on le ressent sur, par exemple, le retard de la sortie de certains jeux.
Notamment Halo, c'est ça?
Par exemple, chez nous, effectivement, donc Halo, qui vient du studio 343 Industries, qui est une licence phare de l'écosystème Xbox et qu'on a dû effectivement retarder, on l'espère, à l'année prochaine.
Alors vous avez évoqué la nouvelle console Xbox X. Quels sont, en résumé, j'imagine que vous allez la défendre évidemment, mais quelles sont les avancées réelles technologiques de cette console par rapport, et qu'est-ce qui justifie par exemple qu'on investisse dans celle-là plutôt que dans le précédent modèle?
Cette nouvelle génération, je dirais qu'elle va surtout mettre l'accent sur l'immersion du joueur dans le jeu. Il y a différents piliers, on va parler de jeux en 4K, on va parler également de 120 images par seconde. On a des vitesses de chargement qui sont beaucoup plus rapides, avec notamment le SSD qui est présent dans nos consoles. La nouvelle architecture des consoles Xbox aussi qui permet cette rapidité d'exécution. On a le ray tracing également qui optimise les effets de lumière. La compatibilité avec le Dolby Atmos qui va influencer le son. Tout ça pour dire simplement qu'on travaille vraiment sur l'immersion du joueur dans le jeu. On parle de puissance également, puisque sur la Series X, on va aller jusqu'à 12 teraflops de puissance de traitement. Et il faut noter qu'on est sur cette nouvelle génération avec deux consoles. On le mentionnait tout à l'heure, on a d'un côté la Series X, mais également la Series S, qui sont sorties toutes les deux au même moment sur cette nouvelle génération.
Avec un All Access dont la France propose à 32€, je crois, par mois, sur un abonnement 24 mois. Donc plus puissante, plus rapide, plus immersive, célérité. Terminons peut-être avec une question sur les contenus, donc la créativité. Je vous laisse peut-être mettre en avant 2-3 jeux ou 2-3 projets qui vous paraissent intéressants. J'aimerais que vous parliez peut-être de Tell Me Why, mais aussi peut-être d'autres projets que vous avez.
Sur cette fin d'année, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a à peu près 60 jeux qui vont être optimisés pour la nouvelle génération de consoles Xbox. On a des licences phares comme Forza, comme Gears, comme Ori, mais aussi les jeux de nos partenaires comme Assassin, voilà là, d'Ubisoft, NBA 2K, Yakuza également, et Cyberpunk qui arrive le 10 décembre. Donc, tous ces jeux de fin d'année seront optimisés sur notre nouvelle plateforme. Et à côté de ça, on continue à proposer, notamment dans le Game Pass, les jeux de studios, notamment des studios français, vous l'avez mentionné. Donc, on a Dontnod avec le jeu Tell Me Why. On travaille également avec Asobo, dont Flight Simulator ou encore A Plague Tale. On a également fait l'acquisition de la maison mère ZeniMax qui intègre Bethesda mais aussi Arkane qui est un studio français. Et donc on peut imaginer qu'avec les 23 studios qui font maintenant partie des Xbox Game Studios, on aura énormément de contenu pour soutenir l'écosystème Xbox.
L'achat de ZeniMax Studio, ça a coûté cher au portefeuille de Microsoft. Combien à peu près après l'achat de LinkedIn et de Skype, ça vous coûte combien?
Donc là, pour l'acquisition de ZeniMax, qui montre bien la puissance du jeu vidéo chez Microsoft et l'intérêt qu'on y porte, on a déboursé 7,5 milliards de dollars.
On a une petite somme.
Je pense que la deuxième plus grosse acquisition pour Microsoft.
Cadeau de Noël, 7,5 milliards de dollars. Tell Me Why, vous ne l'avez pas dit, mais c'est un jeu notamment indépendant et avec des personnages transgenres.
Tout à fait. Tell Me Why, donc du studio Dontnod, studio français, qui met en avant, bon, sans spoiler le jeu, mais effectivement, on va avoir un personnage qui est transgenre. Et ça appuie bien, je trouve, la diversité du jeu vidéo. On parlait tout à l'heure de la richesse, de la créativité, mais aussi de l'ampleur du jeu vidéo. Je pense qu'il faut aussi insister sur la diversité qu'on peut trouver dans le jeu vidéo avec la mise en avant de personnages trans, de jeux qui vont de simulations comme Flight Sim d'Asobo à A Plague Tale qui va retracer la guerre des 100 ans, la peste noire, etc. On commence de plus en plus aussi à voir des femmes qui sont mises en avant dans les titres phares. On l'a vu sur Gears 5, par exemple, où le personnage principal était une femme. Donc je pense que le fait qu'il y ait de plus en plus de diversité dans les équipes qui travaillent dans les studios va nous amener à voir aussi avec le temps de plus en plus de contenu varié aussi qui représenterait, je pense, mieux notre société.
Merci infiniment Ina Gelbert, directrice Xbox France, d'avoir été avec nous en direct par téléphone. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, puisque ça a été upgradé pour la nouvelle console Xbox, Assassin's Creed Valhalla en extrême.
Je vois tes désirs. Ils t'emmènent loin de chez toi, vers des terres où le pouvoir, les mystères et les légendes font loi. Mais tu caches quelque chose. Tu marches dans les ténèbres. Que cherches-tu? Je vois la conquête. Je vois tes ennemis. Tes luttes. Tes doutes. La gloire t'attend à Eivor. Une guerre fait rage en toi. Et la gloire ne saura te combler.
à l'instant, bande originale extrait d'Xbox sur Xbox Assassin's Creed Valhalla, c'est du studio Ubisoft. On est ce soir avec Julien Chaise, youtubeur spécialisé dans le jeu vidéo, pour une émission jeu vidéo en direct sur France Culture, 19h05. C'est un jeu dont on parlait tout à l'heure, Assassin's Creed, qui est optimisé donc pour Xbox, mais on peut le voir ailleurs.
Oui, on peut le voir sur à peu près toutes les plateformes existantes et nouvelles,
sur PC.
PS5, y compris sur PC. Ubisoft est vraiment le partenaire de tous les consoliers.
Et ça marche mieux où ?
Les derniers tests techniques montrent que sur certains aspects, la version PS5 est un petit peu dessus. Mais alors, véritablement, hein, pour quelqu'un de normalement constitué,
la différence
est quasiment infime.
Donc il vaut mieux jouer sur PC si on a le choix. Mais...
Non. Paradoxalement, Ubisoft n'a pas réussi une optimisation incroyable sur PC.
Alors tout ça est lié aussi aux évolutions techniques et technologiques, et même des télécoms. On était en 3G, on a de la 4G, on a du 5G. Au fond, on a aussi une évolution du jeu vidéo qui passe par ces canaux-là.
Bien sûr, et ça clairement, l'avènement de la 5G va amener le streaming de jeux vidéo à une sphère qu'elle ne connaît pas encore aujourd'hui.
Donc tous ceux qui sont contre la 5G sont contre les gamers ?
En tout cas, clairement oui, c'est un peu contre le sens de l'histoire.
Et on peut dire que la 3G a quoi ? Démocratisé d'une certaine manière la musique en streaming, c'est ça ?
La 4G, le streaming de films et de séries, et la 5G devrait permettre justement l'avènement du streaming de jeux vidéo qui a une notion supplémentaire complexe, c'est qu'on ne fait pas que recevoir des paquets de données, mais on envoie aussi des données, puisque c'est l'interaction qui est la clé.
Alors tout ça montre que le streaming, c'est très complexe. On est en streaming au fond c'est ce qui définit le jeu vidéo aujourd'hui, mais après ça peut être sur console, ça peut être sur PC, ça peut être sur smartphone. La machine n'est pas obligatoirement la clé, comme si on pouvait se balader finalement.
Ina Gelbert le soulignait à très juste titre, je pense qu'à l'avenir, le plus important n'est pas la console, le PC, l'objet, mais le compte. Parce que lorsque vous aurez sur votre télé connecté un onglet PlayStation, Xbox, Nintendo et que vous appuierez, vous serez en streaming. L'important justement, c'est que les données transitent le plus rapidement possible pour ne pas avoir de différence par rapport à une machine physiquement installée. Et là, je pense qu'on sera vraiment dans une démocratisation du jeu vidéo au sens très 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 large, comme Netflix a pu, Disney+, Amazon Prime, etc. pousser encore la consommation vraiment des contenus films et séries, qu'on ne s'y trompe pas. Google s'est lancé avec Stadia. Amazon se lance, dans un premier temps aux États-Unis, mais prochainement en Europe, avec Luna. Microsoft aussi a une solution de streaming. xCloud, PlayStation a sa solution, le PlayStation Now, et Nintendo au Japon testent un petit peu tout ça. Donc, bien sûr que le streaming, ce sera peut-être pas, dans les 5 à 10 ans à venir, l'avenir, mais l'un des avenirs, indubitablement.
Un mot, Julien Chaise, sur les contenus, la créativité. La directrice de Xbox France, Ina Gelbert, évoquait à la fois des triple A, c'est-à-dire des blockbusters, et d'autre part des studios indépendants. On voit qu'il y a aujourd'hui une importance, c'est l'exclusivité, et d'autre part que le contenu est roi, et que c'est celui qui invente, qui crée, qui expérimente, qui gagne.
Pourquoi est-ce que je me prendrais une Xbox plutôt qu'une PlayStation ou une console Nintendo ou un PC ? Eh bien parce qu'il y a ce jeu, cette expérience que je veux et qui n'existe pas ailleurs. C'est comme ça que...
Donc l'exclusivité, c'est la clé.
Mais bien évidemment. Netflix se bat pour avoir ses propres séries, ses propres films.
Ouais, Disney+, comme l'évoquait tout à l'heure. Ouais.
Quel serait l'intérêt d'avoir Disney+, si c'est pour avoir... pas autre chose que les dessins animés Disney.
C'est la question
etc.
que se pose pour Salto quand on revoit Desperate Housewives. Mais c'est un autre débat.
Et c'est effectivement ce qui avait manqué sur la génération actuelle Xbox One à Xbox. C'est pour ça d'ailleurs que Ina Gelbert le soulignait. Microsoft a sorti le chéquier pour obtenir vraiment le droit exclusif de très nombreux studios. Parce que oui, le contenu c'est la clé. Et ceux qui n'auront pas les titres qui font rêver les joueurs, forcément seront un petit peu sur le côté.
Detroit Become Human est le dernier jeu développé par le studio Quantic Dream dans un monde futuriste et dystopique. On y suit les aventures de trois androïdes qui se battent face aux humains pour leur liberté. Ça se passe à Detroit.
De plus en plus d'androïdes montrent des signes de déviance. On en compte des millions en circulation. S'ils deviennent instables, les conséquences seront désastreuses.
Mon nom est Kara. C'est ici que tout a commencé. La forge du monde. L'endroit où tout finit.
Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas. Voilà Alice, tu dois t'occuper d'elle.
Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. La société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs.
Je m'appelle Marcus.
Et tout comme vous, j'étais un esclave.
Merci, Marcus.
Mais un jour, j'ai ouvert les yeux. J'ai repris ma liberté. Je suis redevenu un homme libre. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que vous aussi pouvez être vos propres maîtres.
Mon nom est Kara.
Je m'appelle Connor.
Mon nom est Marcus.
Ceci est notre histoire.
L'instant Detroit Become a Human du studio français Quantique Dream, dont on a le directeur général avec nous en direct par téléphone, Guillaume de Fondomière. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Alors, vous êtes directeur général, donc je l'ai dit, de Quantique Dream, par ailleurs membre du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs en France. Votre studio a été créé par David Cage, dont l'Express disait d'ailleurs qu'il était le Godard du pixel. C'est un studio parisien fondé en 1997, il y a quoi, 23 ans. Vous faites à la fois des jeux triple A avec des budgets très élevés, des blockbusters, mais aussi tout un tas de jeux et de projets plus indépendants. Chiffre d'affaires de 15 millions par an, avec des bénéfices de 6 millions. Comment est-ce qu'on pourrait définir Quantique Dream en quelques mots et par rapport à vos activités, votre philosophie?
Ben, notre studio se distingue effectivement par la création d'expériences originales et qui sont porteuses de sens et elles sont basées sur la narration interactive et l'émotion. Créer des œuvres porteuses de sens, pour nous, c'est ne pas hésiter à aborder des thématiques sociales, voire philosophiques. Ainsi, dans nos jeux, nous mettons en scène des personnages qui, pour certains, sont en marge de la société ou qui sont confrontés à des injustices ou des dilemmes moraux. Et à travers leur histoire, nous interrogeons la condition humaine, mais aussi le joueur, en lui posant certaines questions. Que ferais-tu si tu étais dans cette situation? Quelle décision ou choix moraux choisirais-tu? Donc, nous pensons que le jeu vidéo peut être un formidable média d'expression. Et je constate d'ailleurs que de plus en plus de créateurs se lancent à leur tour dans cette direction, ce qui rend le média, je pense, plus mature, mais aussi plus attractif et universel.
Depuis vos premiers jeux vidéo à Quantique Dream, vous êtes approprié, vous le disiez d'une certaine manière, les codes du cinéma en misant sur l'émotion, en systématisant l'utilisation de la motion capture et en ayant recours à de vrais acteurs. Le dernier jeu Detroit était représentatif de cette ligne éditoriale. Revenons sur quelques jeux qui ont marqué l'histoire de Quantique Dream. Vous pouvez peut-être en citer quelques-uns. Et est-ce qu'ils sont sur PC, sur PS2, PS3 ou Xbox?
Alors en fait, nous avons travaillé entre 2006 et 2018
uniquement pour Sony, oui.
En exclusivité avec Sony sur PlayStation et créé Heavy Rain, qui est le premier jeu issu de cette collaboration, sorti en 2010.
Ça, c'était sur PS3, c'est ça?
Ça, c'était sur PS3, absolument. Puis nous l'avons sorti quelques années plus tard sur PS4. Ensuite, nous avons travaillé sur Beyond Two Souls, qui est sorti en 2013 sur PlayStation 3 et en 2015, si je ne m'abuse, sur PlayStation 4. Et finalement, Detroit Become Human, qui est sorti sur PlayStation 4 en 2018. Et les trois titres sont dorénavant disponibles sur PC.
Alors, question évidente, justement. L'an dernier, vous avez décidé de sortir vos derniers jeux sur PC suite à une forme de prise d'indépendance par rapport à Sony. Qu'est-ce que ça change pour Quantique Dream d'être, d'avoir terminé ce partenariat d'exclusivité avec Sony?
Bah d'abord, je veux dire que ça a été une formidable expérience pour nous parce que nous avons pu nous concentrer sur une plateforme bien définie et travailler en confiance pendant tant d'années avec une major de cette industrie qui nous allait donner les moyens de développer d'une part nos technologies mais aussi de parfaire ce travail que nous avions entamé quelques années auparavant sur la narration interactive. Et donc ce qui change pour nous maintenant, en fait, nous avons décidé en 2018, effectivement, grâce au succès que nous avons connu avec Sony, de redevenir indépendants, d'avoir la maîtrise de nos créations complètes, mais surtout, avant tout, pour commercialiser nos futures créations sur toutes les plateformes, dans le monde entier, et ainsi toucher un public plus large, et en particulier dans des régions où les consoles ne sont pas forcément accessibles ou populaires.
Alors vous êtes chez Quantique Dream à la fois un développeur de jeux vidéo, mais également un éditeur. C'est utile, c'est indispensable. Qu'est-ce que ça change?
En fait, être éditeur, déjà, c'est financer, avoir une maîtrise éditoriale complète sur les projets qu'on développe nous-mêmes en interne. Mais nous avons aussi décidé, suite à ces lancements sur PC Réussi, de proposer, de soutenir la création vidéoludique et à certains créateurs indépendants, ceux qui proposent une vision singulière et originale et qui partagent en quelque sorte un ADN assez proche du nôtre, de travailler avec nous. Donc nous leur proposons notre expertise, nos moyens de production, le financement nécessaire à la réalisation de leur jeu, et donc nous leur donnons accès, grâce à notre équipe édition et de commercialisation, aux marchés internationaux.
Lorsqu'on regarde vos développements, vous avez à la fois des petits jeux, mais aussi des blockbusters, AAA. Comment ça se finance? Combien ça coûte? Et comment est-ce qu'on crée finalement un jeu vidéo AAA?
Alors, la production et l'édition d'ailleurs de jeux vidéo requièrent effectivement des moyens financiers
considérables.
Ouais. Voilà, donc souvent quand on est un studio indépendant, avec peu de moyens, on se tourne vers des grands éditeurs. On leur pitch, c'est ce qu'on dit dans notre jargon, on leur pitch les projets, on leur présente nos projets, souvent à l'étape de maquette, hein, on explique ce qu'on veut faire, quelle cible on a pour notre jeu, et puis s'ils décident de le financer, ils donnent au studio les moyens financiers pour réaliser ces jeux. Donc voilà comment ça se passe. Après, la production, alors ça dépend évidemment de la nature des jeux. Des jeux à petit budget, peut-être sur téléphone mobile par exemple, vont requérir quelques centaines de milliers d'euros. Donc ce sont souvent des petites équipes, hein, de 3 à 10, 15 personnes. Alors que sur des jeux sur console, AAA, des gros blockbusters, eh bien, il faut plusieurs centaines de personnes, donc évidemment des moyens financiers aussi colossaux.
Est-ce que vous voyez les évolutions, que ce soit via le streaming ou via le cloud gaming, hein, puisque le streaming a besoin du cloud pour fonctionner, comme une concurrence par rapport aux consoles traditionnelles de salon ou aux jeux vidéo en général?
Oui, c'est une concurrence, et c'est d'ailleurs, je pense... On vit actuellement un âge d'or du jeu vidéo, parce que il y a de plus en plus, d'abord la dématérialisation a permis aux créateurs d'avoir un accès beaucoup plus direct aux joueurs, et ensuite cette multiplication des plateformes leur offre des possibilités assez assez incroyables pour toucher un public déjà au niveau mondial. Et puis sur diverses plateformes, donc leur permet en quelque sorte d'accéder, quelle que soit la nature de leur jeu, à leurs joueurs.
Quelle est la place de la France dans le marché dont vous faites partie, puisque vous êtes un studio français, dans le marché mondial du jeu vidéo? Comment est-ce qu'on explique finalement que les Français arrivent à tirer malgré tout leur épingle du jeu? Et qu'est-ce qui nous manque?
En France, je pense qu'on se distingue par déjà des formations d'excellence. Des formations dans tout ce qui est ingénierie informatique, mais aussi toute la création artistique. Ce qui fait de nous un pays idoine pour implanter un studio et créer des jeux vidéo. Et on le voit d'ailleurs, nous avons en France, alors Ubisoft, hein, Julien Chiez l'a dit tout à l'heure, Ubisoft est notre grand champion. Mais nous avons aujourd'hui entre 200 et 400 studios de différentes tailles qui créent des jeux extrêmement intéressants sur toutes les plateformes. Donc ça, c'est effectivement quelque chose de très positif. Nous avons quelques éditeurs, Ubisoft, Dontnod, Quantic Dream maintenant, Focus Home Interactive, qui travaillent avec des studios français, mais aussi avec des studios internationaux. Ce que nous n'avons pas véritablement aujourd'hui, c'est un grand consolier. Il y a Shadow qui est français, n'oublions pas. Mais c'est vrai que Shadow a encore du mal à être véritablement en concurrence directe avec ces grands opérateurs que sont Sony, Microsoft, Nintendo et bientôt...
Et d'autres, oui. Guillaume de Fondomière est le directeur général de Quantic Dream. Je ne peux pas vous laisser sans vous poser une question, inévitablement. Il y a une polémique en 2018, notamment des articles dans Le Monde, Mediapart, des revues spécialisées comme Canard PC, qui notaient une culture, je les cite, d'entreprise toxique chez Quantic Dream, des charges de travail écrasantes, une filière de jeux vidéo qui était concernée par des conditions de travail difficiles, hein, en raison des délais de production à tenir en général, et chez Quantic Dream en particulier. Ce fameux crunch qui désigne une période intense de travail avant la sortie d'un jeu. Où en est-on actuellement par rapport à ces polémiques aujourd'hui chez Quantic Dream?
Alors nous avons dès le départ démenti formellement ces accusations et je pense que depuis d'autres articles de presse, mais aussi un certain nombre de jugements, nous ont donné raison et donc je laisse à ceux qui ont fait fructifier ces informations, je les mets devant leurs responsabilités. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tout à fait sereins, à la fois la direction de l'entreprise, mais aussi les salariés. Nous monitorons vraiment chaque année l'ambiance chez Quantic Dream. Nous travaillons notamment avec un institut de sondage, PeopleVox, qui fait chaque année une étude très très précise sur le ressenti qu'ont les collaborateurs de la qualité de travail au sein de Quantic Dream et les résultats sont excellents. Après, moi, je ne peux pas parler pour les autres studios, chez les autres éditeurs, je ne sais pas exactement ce qui s'y passe. Je pense que, d'une manière générale, hein, nous sommes comme toutes les entreprises, et comme tous les secteurs d'activité, nous sommes des groupes humains, avec tout ce que cela comporte de problèmes entre humains. En tout cas, je retiens une chose positive de toutes ces affaires, appelons-les comme ça, qu'on peut entendre assez régulièrement dans notre industrie ou d'autres, c'est que ça fait bouger des lignes, ça questionne les managers sur leur méthode de management, les collaborateurs sur la manière dont on doit se comporter au sein d'une collectivité humaine. Et je constate que les choses, je pense, globalement, évoluent. En tout cas, je veux l'espérer.
Merci infiniment.
Dans le jeu vidéo, excusez-moi, une dernière chose. Dans le jeu vidéo, en tout cas, je pense que les choses sont prises très au sérieux. Et au SNJV, tout comme au CEL...
Les syndicats,
ouais. Dans les syndicats professionnels.
De traiter ces questions, ça prouve que derrière les personnages, les petits Mario et autres, il y a des êtres humains. Merci d'avoir été avec nous en direct, Guillaume de Fondomière. Vous êtes directeur général de Quantic Dream.
It's me, Mario!
À l'instant, un extrait de Super Mario 3D All-Stars qui réunit trois aventures du célèbre plombier en un seul jeu sur la Nintendo Switch sorti cette année, dont Super Mario Sunshine. Émission jeux vidéo ce soir dans Soft Power en direct sur France Culture. Mon invité est Julien Chiez, youtubeur jeux vidéo. Alors, comme vous êtes youtubeur, j'ai une question pour vous concernant finalement ce secteur, parce que on lit pas beaucoup de magazines aujourd'hui, jeux vidéo, c'est plus comme avant. Mais il y a des influenceurs et des prescripteurs dont vous êtes un des plus importants en France. Comment ça se passe l'influence, la prescription de jeux vidéo, notamment sur YouTube, puisque c'est le média que vous avez privilégié?
Alors, à titre personnel, moi, le terme influenceur m'intéresse assez peu, et en tout cas je ne me reconnais pas là-dedans, puisque dans ce cas-là, n'importe quel organe média influence aussi. S'il suffit de parler pour influencer, c'est se faire, à mon avis, une piètre idée des gens qui nous écoutent et qui ont leur libre arbitre. Mais effectivement, on a bien noté que sur YouTube, sur Twitch aussi, il y a de plus en plus de créateurs de contenu, je préfère les appeler comme ça, qui proposent des contenus sur le jeu vidéo, qu'il s'agisse de streamer un jeu, comme on dit, c'est-à-dire on joue, en même temps on commente, etc. Ça demande objectivement une véritable dextérité de pouvoir et parler et animer et jouer en même temps, ou bien des formats peut-être un peu plus classiques, c'est ce que moi je fais, c'est-à-dire de l'analyse de jeux vidéo avec des tests, des interviews de créateurs
de jeux. Avec votre écran vert derrière
Exactement,
vous.
Exactement, incroyable.
Pourquoi imagine. Un écran vert d'ailleurs?
Bah, tout simplement parce que ça permet de changer de projeter, à la volée les fonds qu'on a derrière soi, de peut-être aussi s'immerger à l'intérieur des jeux.
On gagne bien sa vie avec YouTube, on arrive à monétiser finalement en étant prescripteur, mot que vous n'aimez pas forcément, influenceur et YouTuber tout simplement.
On est vraiment dans la main de son public. Mmh. Voilà. Donc ça veut dire que si vous avez 50 personnes qui vous regardent, qui vous suivent avec beaucoup d'envie, etc., c'est pas très suffisant forcément pour pouvoir en vivre. Si vous avez la chance de pouvoir être suivi par des millions de personnes, là forcément la simple monétisation de YouTube ou de Twitch permet de pouvoir gagner sa vie. Ouais. Donc c'est pour ça aussi, je pense, qu'on voit beaucoup de personnes se lancer. Après, c'est
et
très
pyramidal. Et parfois, on se fait payer par les marques ou pas? Comment ça marche?
Ah oui, c'est ce qu'on appelle les OPSP, etc.
Mais dans ce cas-là, on le signale, c'est
bien
ça.
Bien évidemment, c'est obligatoire. Enfin, en tout cas, c'est légal. Vaut mieux le faire. En tout cas, à titre personnel, je le fais systématiquement.
Peut-être pour terminer, on a l'impression que les jeux vidéo, alors notamment à cause du confinement, mais pas seulement, sont en train de pénétrer vraiment le public français, avec même des élus, des hommes politiques qui viennent en parler. Comment vous voyez cette évolution qui vous surprend, vous qui avez commencé il y a longtemps, plus de 20 ans dans ce secteur?
En tout cas, je m'y attendais, je l'espérais. J'ai souvent dit que le jeu vidéo avait déjà gagné, mais il ne le savait pas encore. C'est-à-dire que le chemin était long, hein, puisque, oula, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu dans les médias qui tensaient fortement le jeu vidéo, certes reconnu pour son caractère économiquement impressionnant, mais dont les valeurs parfois n'étaient pas très bonnes. Je trouve qu'aujourd'hui, en fait, les gens regardent le jeu vidéo plus comme il l'est réellement, déjà un divertissement, et dans ces périodes quand même assez troublées, ça fait du bien. En vérité, je pense que c'est un média qui rassemble énormément, c'est un média qui peut surprendre aussi, qui peut apprendre des choses, et c'est un média à nul autre pareil, puisque c'est le seul à offrir l'interaction, l'interactivité, et on peut créer
donc un divertissement interactif.
Et on est le propre héros de chacune de ces histoires, et ça je crois que ça n'a pas de prix.
Julien Chiez, youtubeur spécialisé dans les jeux vidéo, merci d'avoir été avec nous en direct ce soir. Dans un instant, la suite du magazine des industries culturelles et du numérique avec Le Village Global, notre nouveau nouvelle séquence donc internationale autour des idées et de la culture. Ce soir, l'écrivain égyptien Alaa Laswani, alors que débute la visite d'État, je l'ai dit, du président Al-Sisi à Paris. Mais juste avant, musique, Robert Johnson. On écoute un extrait de Sweet Home Chicago, l'un des titres phares du bluesman Robert Johnson, auquel trois livres sont consacrés cet automne. Grail Marcus en rencontre dans la New York Review of Books cette semaine. C'est le blues des origines, celui du delta du Mississippi, qui n'est pas vraiment un delta d'ailleurs, mais cette zone où le fleuve débordait jadis, rendant la terre fertile et propice à la culture du coton. Les esclaves y étaient donc traînés, et même après la guerre d'indépendance et la fin de l'esclavage, la ségrégation et les lois dites Jim Crow aux États-Unis ont longtemps persister dans cette région. C'est ce monde-là que décrit en creux et en vers le grand blues du Delta, mélancolique et débordant des rêves et des vicissitudes des Noirs. Un blues qui parle aussi de Mama, la mère Black si présente, et de l'amour souvent impossible. Les trois livres qui paraissent sur Robert Johnson et dont vous trouverez les références sur notre site et sur notre compte Twitter au mot-clé Soft Power rendent bien compte d'une expérience unique dans l'histoire de la musique moderne qui allait donner naissance au jazz puis au rock. Robert Johnson, né en 1911 et assassiné en 1938, en étant l'un des pères fondateurs. Et puisque je parle du Sud-Américain confédéral et longtemps raciste, je vous signale également la parution d'une biographie littéraire sur William Faulkner, l'écrivain et donc le New Yorker. Le New Yorker rencontre cette semaine. Le livre s'appelle The Saddest Words, les mots les plus tristes, hein, William Faulkner and Civil Rights. Le livre est signé Michael Gora et c'est une révélation. On savait que Faulkner était profondément en ancrée dans la culture sudiste, confédérale et paternaliste, mais on avait sous-estimé son racisme viscéral et maladif, ce même racisme qu'il dénonçait dans ses livres. L'ouvrage de Michael Gora est donc une triste révélation pour beaucoup d'amoureux de Faulkner qui découvrent un écrivain fendu en deux, irréconciliable finalement entre son langage public et ses idées privées racistes. Il montre aussi à quel point la culture sudiste, qui n'a jamais digéré sa défaite militaire, politique, mais aussi morale, a continué à se corrompre moralement par orgueil et à sombrer dans une décadence dont Faulkner fut l'un des splendides chroniqueurs. Mais le New Yorker précise « It's too late to cancel Faulkner, he already cancelled himself ». Il est trop tard pour effacer Faulkner, il s'est effacé tout seul. Le livre est signé Michael Gora, « The Saddest Worst ». L'article est publié cette semaine dans le New Yorker par Kazé Ksep.
Soft Power, le village global.
Précisément 19h30 sur France Culture, le village global, notre segment séquence internationale centrée sur les débats d'idées et la culture au niveau global, car le monde est un village global. Ce soir, je reçois l'écrivain égyptien Alaa Al-Aswani, qui est l'un des opposants numéro 1 au président égyptien Al-Sisi, lequel commence une visite officielle à Paris ce dimanche. Il doit rencontrer Emmanuel Macron demain. Alaa Al-Aswani, en direct par téléphone depuis New York. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes égyptien et votre roman, superbe livre, L'immeuble Yacoubian, a été traduit dans le monde entier. On vous doit également des romans comme Chicago, Automobile Club, Automobile Club d'Égypte ou encore J'ai couru vers le Nil. Vous publiez cet automne Le syndrome de la dictature, un essai à la fois critique et profond en 9 chapitres ciselés sur la dictature, l'Égypte d'Al-Sisi notamment, mais aussi plus globalement le phénomène et le syndrome dictatorial. Commençons à la soigner par une question politique. Vous êtes connu comme opposant au régime égyptien sous Moubarak, sous Mohamed Morsi et maintenant sous Al-Sisi. Ma question est directe. Faut-il recevoir le président Abdel Fattah Al-Sisi, qui est donc à Paris ce dimanche, quand on sait que des dizaines de milliers de prisonniers politiques ont été arrêtés ou sont condamnés à mort en Égypte ?
Oui, votre question, moi je pense que la réponse est une question aussi. Est-ce que les violations des droits de l'homme forme une affaire intérieure ou c'est une affaire humaine dont on peut parler partout. Vous voyez, les régimes, les dictateurs disent toujours que...
Ah, nous avons pas perdu Alaa Al-Aswani, vous êtes toujours là ? Vous êtes là, Alaa Al-Aswani ? On va vous rappeler tout de suite. Alors, un mot sur ce livre d'Alaa Al-Aswani, Le syndrome de la dictature, un ouvrage construit par petits chapitres. Ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que non seulement l'Égypte est abordée, l'Égypte de Nasser d'abord d'ailleurs, l'Égypte de Moubarak et l'Égypte d'Al-Sisi, même celle de Morsi, le président lié aux frères musulmans qui arrive après Moubarak et qui est lui-même dégagé dans une époque de grands dégagements successifs par l'arrivée d'Al-Sisi. Mais il raconte aussi tout un tas d'autres aventures intellectuelles, politiques. Il part d'Étienne La Boétie et de son discours de la servitude. Il raconte aussi, et c'est peut-être le chapitre le plus passionnant à mes yeux de ce livre, c'est ce 6e chapitre qui est consacré à la place des intellectuels. Alors là, l'écrivain Al-Aswani oppose ce qu'il appelle les dissidents qui résistent. Alors par exemple Thomas Mann, Alexandre Solzhenitsyn, Federico Garcia Lorca ou Antonio Gramsci, à ceux qui collabore, et là il évoque Pablo Neruda avec le stalinisme, Gabriel Garcia Marquez, Thury Ferrer de Fidel Castro, ou encore Nagiz Malfous, conciliant avec Nasser. On voit bien dans cette filiation qu'il y a ce qu'on peut appeler les intellectuels qui luttent et les intellectuels qui acceptent la dictature. Mais je crois que vous êtes revenu à la Soigny.
Oui.
Alors vous êtes exilé, vous êtes exilé à New York. Cela veut dire que vous avez préféré partir pour votre sécurité, pour votre liberté d'expression, que vous n'avez plus pu rentrer dans votre pays.
Oui, c'est que moi, dès que M. Sisi est arrivé au pouvoir, j'ai été interdit d'écrire dans tous les journaux égyptiens. Et après, j'étais interdit de publier mes livres. Et après. Mais à cause de mon dernier roman, j'ai couru vers le Nil. J'ai été poursuivi devant un tribunal militaire. J'enseigne ici en Amérique l'écriture créative, creative writing, dans les universités. Mais je suis interdit en Égypte. Aussi, le tribunal militaire en Égypte, il n'y a pas tellement de justice parce que les jugements sont souvent décidés avant le tribunal. Alors
justement, par rapport à ce que vous indiquez, par rapport à cet état de droit qui n'existe plus, ce problème de la justice, la liberté d'information, liberté d'association, liberté politique qui sont supprimées, je vous repose la question que je posais tout à l'heure avant que nous soyons coupés. Est-ce qu'il faut recevoir, est-ce qu'Emmanuel Macron doit recevoir Al-Sisi à Paris et le voir, le rencontrer demain?
Je comprends très bien que le monsieur Macron et le président de la République ne présentent pas seulement les principes de la France, mais aussi ils présentent les intérêts de la France. Mais moi, je pense que on ne doit pas oublier les principes. Et je dois aussi dire que en défendant les principes de la République, on peut bien avoir les intérêts. Ils sont pas. Les deux côtés ne sont pas contradictoires. Alors, moi, je pense que les violations des droits de l'homme en Égypte sont pires que jamais. Je pense que tous les pays démocratiques et tout le monde a le droit de critiquer ce qui se passe en Égypte.
Mais on peut recevoir.
Je peux pas recevoir ou ne pas recevoir, c'est une décision politique, vous voyez. Mais ce qui compte pour moi, c'est de défendre les principes de la démocratie, ce qu'on attend de la France, et aussi également, moi je suis pas comme quelqu'un qui est francophone et francophile, et on voit toujours la France comme un modèle de liberté, de démocratie. Moi, je suis pas content de cette loi qui, Monsieur Macron essaye de faire ce que j'ai lu, qu'il y a l'article 24, où, selon lequel on n'a pas le droit de filmer les officiers de police. Moi, je vis à New York. Selon la loi américaine, vous avez absolument le droit de filmer les policiers, et c'est comme ça qu'on a découvert le crime, la mort de George Floyd. Vous voyez,
Alaa Souani, en l'occurrence en France, on a toujours le droit de filmer, hein, la loi ne va pas interdire de filmer, elle interdit juste de mettre sur les réseaux sociaux quand c'est des situations compromettantes les policiers. Mais revenons à votre livre. Lorsque j'étais venu vous interviewer chez vous en Égypte il y a quelques années, c'était à une heure de route je crois au sud du Caire, on était dans votre cabinet de dentiste, on ne le sait pas toujours mais vous êtes un chirurgien dentiste. Alors quand je lis votre livre, on a l'impression que c'est un écrivain qui est aussi un chirurgien dentiste parce que vous faites une autopsie, une dissection anatomique de la dictature égyptienne. Vous analysez ces symptômes et ce que vous appelez, c'est le titre de votre nouveau livre, le syndrome de la dictature. C'est donc un rapport médical. La dictature, c'est une maladie?
Oui, la dictature, c'est une maladie, c'est un syndrome. Je dois ici rapidement expliquer la différence parce que la maladie, c'est une maladie. Mais le syndrome, quand il y a des signes et des symptômes qui se répète toujours, alors ça fait un symptôme. Et moi, je pense que c'est vraiment la dictature est un syndrome et on souffre dans beaucoup de pays de la dictature. Et moi, dans mon livre, j'ai pas seulement discuté la dictature égyptienne, mais j'ai donné beaucoup d'exemples partout, en Amérique latine, en Afrique, même en Europe. Les dictatures qui existaient en Europe, et j'étais inspiré par un sociologue français, Étienne de la Boissy, qui avait écrit vraiment un un livre...
Le discours de la servitude magnifique. Volontaire. Le discours de la servitude
Exactement.
Volontaire.
Exactement.
Alors, le livre est remarquable parce que c'est un essai qui tente de percer les racines du syndrome dictatorial. Pourquoi les dictateurs agissent, mais aussi pourquoi aussi le peuple, jusqu'à un certain point, accepte cette dictature. D'où le lien avec ce discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Vous évoquez le rôle des médias, le rôle des intellectuels. Il y a un beau chapitre, on l'a dit, sur justement les intellectuels. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est votre capacité à prendre de la hauteur, de la perspective. Vous ne réglez pas des comptes avec seulement le président et ancien patron des services de renseignement militaire du président Moubarak, à savoir le général, enfin Monsieur Al-Sissi, mais aussi vous regardez le problème en général de l'Égypte, du Moyen-Orient et au-delà. C'était ça l'objectif du livre ?
Oui, c'est exactement. C'était une l'idée qu'un dictateur à un moment donné peut s'imposer sur un peuple, c'est pas une idée vraiment, c'est pas correct ça. Ça se passe pas comme ça. Il y a à un moment donné sur les deux côtés ce sont les deux côtés qui font le syndrome. Un dictateur qui existe, mais aussi un peuple qui a une tendance à accepter la dictature. Vous voyez ?
C'est le problème de l'Égypte, ça ?
C'est le problème de toutes les dictatures. Et maintenant, ça continue, hein. Ça continue même dans les démocraties, parce que si on accepte dans une démocratie, pour protéger, entre parenthèses, l'État, ou faire la guerre contre le terrorisme, etc., etc., si on accepte de limiter les libertés dans une démocratie, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que ça va toujours continuer.
Alors il y a beaucoup de choses passionnantes dans le livre, notamment ce que vous dites des islamistes, le président frère musulman Morsi entre Moubarak et Al-Sissi. L'islamisme n'est pas forcément le problème, dites-vous, ni d'ailleurs la solution. Chapitre formidable sur les intellectuels, je l'ai dit, sur les médias aussi. Dans une dictature, le pourrissement n'est pas limité à des individus, il finit par infecter tout le système éthique de la société. Vous décrivez, vous dites aussi que la démocratie est la solution. C'était d'ailleurs la manière dont vous terminez tous vos articles régulièrement pendant la révolution. De la place Tahrir et la solution pour l'Égypte. Mais je termine cet entretien peut-être par votre conclusion qui tente de proposer des solutions et finalement prévenir la dictature. Quelle est la solution finalement ? Est-ce que ce n'est pas l'alternance politique comme règle et le dissent, c'est-à-dire le droit au dissensus comme modèle, les bienfaits du dissensus dont parle Paul Ricoeur par exemple ?
La conscience. La solution, c'est la conscience. Et de ne pas jamais accepter des compromis sur les libertés. Vous voyez? Alors, je pense, et je répète que je soutiens, moi, comme écrivain, cette résistance contre cette loi, et parce que je comprends que ça peut être très dangereux. Vous voyez, je parle de la France. Et aussi avec les mêmes idées à travers lesquelles j'oppose la dictature de Monsieur Sissi. Vous voyez, je défends la liberté partout. Je pense que on doit vraiment défendre les libertés de tous les êtres humains, quels que soient les pays.
Le livre s'appelle « Le syndrome de la dictature ». Il est publié chez Actes Sud, Al-Aswani, « Le syndrome de la dictature », traduit de l'anglais par Gilles Gauthier. Merci infiniment d'avoir été avec nous par téléphone depuis New York. Vous êtes exilé puisque vous ne pouvez plus rentrer dans votre pays, l'Égypte. On en reste là pour ce soir. C'est la fin de cette tranche d'actualité en direct culture, médias, internationaux et numériques.